bonjour à tous, chers frères et sœurs de Cavaillon. Merci pour ce privilège d'avoir été invité, de me permettre de vous visiter, parce que il est bon de voir des frères et des sœurs en Christ. Nous avons le même Seigneur. Je viens d'Istres, je fais partie d'une église des communautés assemblées évangéliques de France depuis une trentaine d'années. Et nous sommes donc des chrétiens protestants évangéliques comme vous. Je connais bien Jean, parce que nous avons collaboré ensemble pendant un an au sein du groupe des Flambeaux d'Istres. Nous avons même fait un camp ensemble. Donc je connais tous ses défauts, il connaît tous mes défauts. Mais chut, on n'en parle pas. Voilà, à Istres, nous avons pour habitude de faire une prédication textuelle. C'est-à-dire que nous prenons un livre du début à la fin, pendant un trimestre ou pendant quelques mois. Et ça a l'avantage de permettre de voir des choses, des textes qu'on ne prendrait pas forcément d'habitude, parce qu'il y a des fois des difficultés ou des choses qui ne font pas plaisir. Et en ce moment, nous sommes sur le livre des Corinthiens. Et je vais vous lire un passage qui fait penser, qui fait réfléchir, qui remue. Vous allez voir lui-même. Le titre de ce message, ça concerne, je l'ai prêché dimanche dernier. Et pourquoi je vous l'apporte aujourd'hui? Parce que il m'a semblé que c'était intéressant, parce que ça concernait les aspects du culte. Comment vivre un beau culte ensemble? Et c'est ce qu'on veut chaque dimanche en venant nous retrouver, n'est-ce pas? Donc vivre un culte d'adoration édifiant et puissant au niveau de notre témoignage, est-ce possible? Voici le titre. Alors imaginez que vous êtes un monsieur ou une dame qui travaille professionnellement, et que pour une fois, vous rentriez chez vous à l'heure du goûter. Et votre épouse ou votre époux vous a préparé une tropézienne. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une tropézienne. C'est un gâteau délicieux avec de la brioche, du sucre glace et surtout de la crème qui dégouline sur vos doigts à votre plus grande satisfaction. Vous croquez dans votre part et la stupeur et consternation, c'est salé. Et donc dégoûtant. Malheureusement, le cuisinier ou la cuisinière a commis l'erreur entre le sel et le sucre. C'est consternant, le gâteau est à jeter. Eh bien, il peut en être de la sorte au culte le dimanche matin. Tout a été préparé pour qu'il soit bien, qu'il soit bon. Et puis, tout va de travers et il peut y avoir peut-être des paroles malheureuses, je ne sais pas. Et ce culte n'honore pas notre Seigneur d'une certaine manière. Alors, dans le passage précédent que mon confrère avait fait, nous avions parlé de l'exercice du parler en langue et il le comparait au début du chapitre 14 à la prophétie. Comparer ces deux choses qui étaient utilisées dans l'église de Corinthe. Et il en avait tiré des principes pour vivre un culte dans les meilleures conditions possibles. Alors, dans le passage que nous allons lire de 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26, vous verrez que Paul n'aborde pas tous les éléments qui composent un culte. Il ne parle pas, par exemple, de l'enseignement, de la prise de la scène. Il continue finalement à réfléchir à son sujet, à ce qui posait problème dans cette église de Corinthe. C'est une belle lettre que cette église de Corinthe, où on voit, c'est une église composée pour la majorité de païens, et qui ont leur passé, qui ont leur manière de vivre leur foi. On voit qu'ils se réclament d'Apollos, certains, etc. Il y a des parties dans cette église, il y a des tensions, il y a des déséquilibres dans la manière de vivre les dons spirituels. Et Paul, je dirais comme bon pasteur, va apporter un enseignement pour équilibrer cette église, pour leur dire attention, ça ne va pas, il faut reprendre les choses, il faut aller dans tel sens. Donc, dans le passage que nous allons lire, finalement, il continue à réfléchir à la prophétie pour voir comment la vivre de manière correcte et équilibrée dans le cadre du culte. Et ce faisant, cela va nous permettre de réfléchir à ce qu'est la parole prophétique. Ça sera l'objet de notre première partie. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons la question du silence ou de la non-prononciation de la femme, que la femme ne se prononce pas. C'est répété deux fois dans ce passage. Alors ça pose problème, ça va peut-être vous choquer, mesdames, je ne sais pas, messieurs aussi. Mais la parole en parle, il faut que nous en parlions aussi. De quoi s'agit-il? Et enfin, nous réfléchirons dans notre troisième partie à comment faire pour que Dieu s'exprime à travers nos bouches et nos actes concrets lors de l'exercice de notre culte d'aujourd'hui au XXIe siècle. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. 1 Corinthiens 14, verset 26, je lis dans la version Semeur. « Comment donc agir, mes frères? Lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation. Celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue. Celui-là en donnera l'interprétation. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. C'est le grand principe que nous devons tirer. Notre culte, le but, c'est de faire grandir nos frères et sœurs dans la foi, de nous édifier les uns les autres. Si l'on parle des langues inconnues, que deux le fassent, ou tout au plus trois, l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour traduire. S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don de langue garde le silence dans l'assemblée, qu'il se contente de parler à lui-même et à Dieu. Quant à ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit savoir se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi. Car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu. Que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de se prononcer. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvenant pour une femme de se prononcer dans une assemblée. Car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce chez vous seulement qu'elle est parvenue? Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un ordre du Seigneur. Et si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. En résumé, mes frères, recherchez ardemment le don de prophétie et ne vous opposez pas à ce qu'on parle en des langues inconnues, mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Voilà pour ce texte. Donc le contexte de ce passage dans l'église de Corinthe, eh bien, il y avait une polémique, hein, dans l'utilisation, la manière d'utiliser ces dons, ces charismes extraordinaires. Voyons d'abord ce qui concerne la parole de prophétie dans le cadre d'un culte. Il y avait des excès à Corinthe. Le parler en langue posait des problèmes. Et il y avait nettement un manque d'humilité. Cela ressort des textes que nous lisons à 1 Corinthiens 12 notamment. Il y avait un problème pour examiner ce que disaient les personnes. Bref, l'Église avait besoin d'y voir plus clair. Alors après avoir abordé dans le détail l'exercice du parler en langue, eh bien l'apôtre, dans notre passage, se penche plus particulièrement sur l'exercice de la prophétie. Qu'en est-il de la prière prophétique de nos jours lors des cultes? Dans certaines communautés évangéliques, on accepte des prières dites prophétiques. Elles prennent une forme un peu comme celle-ci, « Le Seigneur te dit que », etc. « Le Seigneur sait que », « Il connaît tes soucis, il veut te dire que », etc. Dans la philosophie des églises CAEF, de notre église à Istres, nous sommes réservés, je dois vous le dire, sur cette manière de s'exprimer. Il semble que cette manière de faire, comme le pratiquer un petit peu à la manière des prophètes de l'Ancien Testament, risque de tenter notre orgueil humain et peut entraîner des dérives. De plus, la parole de Dieu a été révélée dans son ensemble et elle s'autosuffit. Paul lui-même parle de nouvelles révélations qui ne sont que partielles. Nous l'avons vu récemment, on avait lu 1 Corinthiens 13, et je vous lis au verset 8, « L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. » Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Donc vous voyez que l'apôtre conclut en disant « partielles sont nos prophéties d'aujourd'hui, de son temps ». Il convient donc d'être prudent sur la manière de prophétiser. Et nous verrons tout à l'heure quel est le contenu, en mon sens, d'une bonne prophétie. Rappelons-nous quel est le but que l'apôtre précisait, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est de s'édifier les uns les autres, adorer Dieu, parler de ses merveilles avec joie et reconnaissance, comme cela a été fait ce matin, lors du moment de prière, n'est-ce pas? Par nos prières et le contenu de notre texte, nous voulons viser l'édification de tous. Et d'ailleurs, le verset 3 du chapitre 14, donc quelques versets avant ce que nous avons lu, nous dit « Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. » Voilà une belle définition de la prophétie. Celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Alors dans ce sens, lorsque nous contribuons à édifier, encourager, à réconforter, eh bien, nous exerçons tous un ministère prophétique. Pourquoi une prière peut-elle être prophétique? Je me suis posé la question. Eh bien, le président de culte, aujourd'hui c'était toi, n'est-ce pas? Eh bien, nous lit au début du culte des passages de la parole. Et ces passages de la parole vont nous toucher tous spirituellement de différentes manières. Et nous allons avoir des compréhensions, parfois un éclairage particulier que le Seigneur va nous apporter et que nous allons restituer lors du moment de prière qui va suivre. Et dans ce cadre, eh bien, nous allons d'une certaine manière éclairer spirituellement nos frères et sœurs et contribuer à leur édification. Une prière peut nous parler à notre cœur, vous êtes d'accord? Elle peut nous éclairer sur un péché qu'il nous faudra abandonner, qu'il nous faudra reconnaître, il nous faudra nous mettre à genoux devant le Seigneur. Elle pourra nous faire comprendre quelque chose sur notre état spirituel. Elle pourra nous conduire à pardonner, à débloquer une situation, à pardonner une personne enfin, ou à accorder notre pardon, ou à même demander pardon. À ce titre, nous pouvons dire que la prière nous édifie, nous encourage, nous réconforte, nous fait progresser dans notre foi. Le moment de prière libre, tel que vous le vivez ici et que nous vivons également à Istres, est un moment super important dans notre culte. Il a eu pour moi un impact très puissant il y a 37 ans, lorsque je suis allé pour la première fois dans une église évangélique. J'ai découvert qu'on pouvait, avec simplicité, s'adresser publiquement à Dieu. C'était pour moi une découverte incroyable. Toutes les églises ne permettent pas des moments de prière libre. C'est un peu la marque de fabrique des églises évangéliques. Alors, je voudrais vous exhorter, eh bien, comme vous le faites déjà, mais avoir cela en tête, je veux vous encourager à profiter de ce privilège en participant dimanche après dimanche le plus possible à ce moment de prière, en vous laissant inspirer par la parole que vous venez d'entendre. Par votre participation, vous contribuerez ainsi à rendre votre culte vivant et à édifier vos frères et sœurs en Christ. Alors je voudrais à présent passer à notre deuxième partie, à ce qui fâche, si j'ose dire, et qui parle plus spécifiquement de la femme et de la prophétie. Le silence ou la non-prononciation de la femme. Paul est-il misogyne? La première fois que j'ai lu ce texte, son discours m'a paru très sévère et cassant d'une certaine manière à l'égard des femmes. Il faut donc approfondir notre texte, parce que nous savons que Paul n'est pas comme ça. Quand Paul parle, c'est qu'il a de bonnes raisons. Alors de quoi parle-t-on? Pas de l'exercice de la prophétie lui-même. Il y avait déjà des prophétesses dans l'Ancien Testament. Par exemple, Myriam, la sœur de Moïse, était prophétesse. Également Déborah et Notre-Dame aussi. Dans le Nouveau Testament, eh bien, le diacre Philippe, un des sept qui avait été choisi, avait quatre filles qui étaient prophétesses et dont le ministère de prophétesse était reconnu. Paul n'interdit donc pas aux femmes ni de prier, ni de faire des prières prophétiques. Soyez rassurés, mesdames. Il s'agit d'autre chose. On est plutôt dans le cadre de l'interprétation de la prophétie dont il a été parlé un peu plus haut dans notre texte. Le verset 34 de notre texte a fait couler beaucoup d'encre et 40 interprétations possibles en ont été données, que la femme ne se prononce pas. Alors ce matin, je ne vais pas vous dire que je vais vous donner la parfaite interprétation. Je ne me mouillerai pas, je resterai humble, n'est-ce pas ? Le contexte de l'église de Corinthe était important, mais on n'y était pas, on ne connaît pas tout de ce contexte. Il faut essayer de le comprendre par rapport à ce que Paul nous dit. Certains auteurs ont dit qu'il y avait des bavardages d'un groupe de dames pendant le moment des interprétations des prophéties. Quand il y avait des prophéties spécifiques, eh bien pendant le culte, il y avait des discussions sur la prophétie et on s'accordait sur ce qui avait été dit. Les mariés et les épouses étaient probablement séparés physiquement pendant le culte, un peu comme chez nos amis darbistes. Il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Alors les épouses ne pouvaient pas directement s'adresser à leur conjoint à cause de la distance. Eh bien, des épouses auraient interpellé directement leur mari et cela créait du désordre dans l'église. Voilà pourquoi l'apôtre demanderait que les épouses échangent au niveau spirituel à leur domicile avec leurs époux. Avec leur époux, car dans la coutume de l'époque, cela était inconvenant de reprendre ou de s'opposer à son mari en public. Mais Paul va se référer à deux éléments pour justifier pourquoi le genre féminin ne devrait pas participer à ce moment d'interprétation des prophéties pour savoir si elles sont vraiment suscitées par Dieu. Premièrement, il se réfère à la loi dans notre texte, verset 34, petit b, qu'elle sache se tenir dans la soumission comme le recommande aussi la loi. Eh bien, cette référence à la loi a bien embarrassé tous les exégètes, car rien dans la loi de Moïse n'interdit explicitement aux femmes ni de parler ni d'interpréter les prophéties. Alors, l'apôtre Paul se réfère-t-il à la tradition orale des rabbins qui commandent toute la Torah ? En effet, le recueil des traditions rabbiniques dit « Il n'est pas permis à une femme de parler à la place de l'homme ». Mais l'apôtre Paul, dans tous ses écrits, dans toutes ses lettres, ne s'est jamais référé à ses écrits rabbiniques. La référence à la loi serait donc plus large et ne concernerait pas le silence à proprement parler de la femme, mais plutôt son attitude de soumission qui risquerait de se trouver compromise par une discussion sur le contenu des messages prophétiques. Je vous répète. La référence à la loi ne concernerait donc pas le silence de la femme, mais plutôt son attitude de soumission qui risquerait de se trouver compromise par une discussion sur le contenu des messages prophétiques. Deuxièmement, Paul, en parlant de la loi, fait souvent référence à l'ordre créationnel. Il l'a déjà fait en parlant du rôle des femmes en 1 Corinthiens 11:8. Ou 1 Timothée 2, verset 11. Alors, je vous lis ce passage important, 1 Timothée 2, verset 11. Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Vous voyez, le mot soumission revient. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Qu'elle garde plutôt une attitude paisible. En effet, Adam fut créé le premier, Ève ensuite. Donc, il est parlé d'un enseignement d'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, notre passage que nous avons lu aujourd'hui, au verset 35 et 36, fait aussi référence à cet ordre créationnel. En effet, il est inconvenant pour une femme de se prononcer dans une assemblée, car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Est-ce de chez vous seulement qu'elle est parvenue ? Vous voyez cet aspect créationnel ? Paul ne sort pas des choses de sa propre idée. Il se fonde sur la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? La pensée de Paul serait la suivante. La femme est complémentaire à l'homme. Elle peut enseigner dans le cadre privé, mais pas public. Elle ne doit pas faire, selon lui, selon notre compréhension, elle ne doit pas faire d'enseignement en chair, car ce serait un enseignement qui prend autorité sur l'homme, et qui supprimerait de facto son lien de subordination à l'homme. rien que Dieu a voulu. Il en est de même pour l'interprétation des prophéties. En rentrant dans des discussions, il y a le risque de s'opposer publiquement à des prophètes hommes et de rompre ce lien de subordination voulu par Dieu. Alors à Istres, c'est notre compréhension de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les églises. Il faut savoir qu'il y a des dames qui sont pasteurs, par exemple, et qui font des prédications. Nous, à Istres, nous comprenons la parole de cette manière-là. Et nos femmes, nos épouses et les sœurs en Christ, eh bien, ont une place essentielle dans l'Église, bien sûr, parce que les femmes sont souvent plus dynamiques, plus engagées que les messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, et elles sont essentielles. Mais nous pensons que l'homme, eh bien, a une position d'autorité dans l'enseignement, et que le Seigneur l'a voulu ainsi. Et à ce titre, eh bien, c'est à l'homme à prendre ses responsabilités. C'est à nous à former les messieurs, ceux qui ont cette capacité, ceux qui ont ce don d'enseignement, à même leur donner des ressources financières pour qu'ils progressent et pour qu'ils puissent apporter la parole de Dieu dans de bonnes conditions, dans le cadre de l'Église. Alors en tout cas, cela signifie-t-il que le prophète homme est parfait, il ne se trompe jamais? Eh bien, pas du tout, bien sûr. L'homme, lui aussi, a ses propres problèmes, et le principal d'entre eux est l'orgueil. Nous le voyons au verset 37 et 38 que je vous relis. Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un ordre du Seigneur. Et si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. Eh bien, si Paul écrit cela, c'est qu'il y avait aussi un problème du côté des messieurs. Paul a rappelé qu'un prophète devait accepter que sa prophétie soit examinée au verset 29. Quant à ceux qui prophétisent, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. S'ils se sont obligés de le rappeler, eh bien, c'est que certains prophètes avaient les chevilles qui gonflaient dangereusement. Ils n'acceptaient pas que leur prophétie soit remise en cause, car ils parlaient de la part de Dieu. Alors comment pouvaient-ils se tromper? Nous le voyons, chers amis, le cœur humain est tortueux par-dessus tout. Il lui faut un garde-fou, même dans le cadre de l'Église. C'est l'orgueil qui a perdu Satan, qui était pourtant le plus puissant des anges, l'ange de lumière, au commencement. Et c'est l'orgueil qui a fait également s'égarer Adam et Ève, n'est-ce pas? Bref, les hommes ne sont eux aussi pas en reste dans l'église de Corinthe. Oui, ils peuvent prophétiser, tout comme les femmes, mais ils doivent se soumettre à l'examen de l'église sur la qualité et le contenu de leur prophétie. Et finalement, si nous pouvons tirer un principe, et c'est ce que nous allons faire dans cette troisième partie maintenant, eh bien c'est une redevabilité commune. Pour qu'un culte soit équilibré, édifiant, eh bien, frères et sœurs, nous devons être redevables les uns vis-à-vis des autres. Et vos anciens, eh bien, ils ont une responsabilité particulière, eh bien, de surveiller que tout se passe bien et que le culte est équilibré, que le culte est serein. Si une personne nous visite, eh bien, il faut qu'elle soit édifiée, qu'elle sente la présence de l'Esprit de Dieu, et qu'elles se disent, mais là, il y a quelque chose, et je vais revenir. Et puis il faut que les personnes mal affermies ne soient pas choquées lors d'un culte. Il faut que les personnes soient vraiment attirées. Les chrétiens doivent être des aimants qui attirent des personnes à la lumière de Dieu en reflétant la gloire de Dieu. Cette redevabilité à Istres, nous la vivons dans le cadre des anciens. Eh bien, par exemple, pour les prédications, lorsque nous nous retrouvons tous les 15 jours, nous examinons ce que le frère a dit la fois précédente, et nous lui disons, tiens, ça aurait pu être différent, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Vous voyez, cette redevabilité, ce n'est pas seulement pour les membres de l'Église, mais c'est pour tous les membres de l'Église, y compris les responsables. Alors, chers amis, partie 3, Dieu parle-t-il toujours aujourd'hui à travers tous les membres, Dieu parle aujourd'hui à travers tous les membres de l'Église. En ce qui concerne le parler en langue à Istres, nous n'avons pas de problème particulier, puisque nous avons décidé de ne pas le pratiquer dans le cadre du culte. Nous avons connu des troubles à ce sujet par le passé, et nous sommes plus que réservés à ce sujet. Nous ne disons pas que cela n'existe pas, mais nous demandons à ce que cela soit vécu dans le cadre privé. Comme il est dit dans notre passage d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est dit, s'il n'y a pas la traduction, eh bien que la personne parle pour elle-même et parle à son Dieu. Nous rejoignons aussi l'apôtre sur la question du témoignage. Pour nous, c'est le plus important. Pour les amis que nous recevons à l'église ou pour les jeunes chrétiens, Paul citait ce que pouvaient ressentir des visiteurs à Corinthe. Je vous lis 1,14, verset 23. Si vous êtes toujours dans ce chapitre 14, lisez-le avec moi. En effet, imaginez que l'Église se réunisse tout entière et que tous parlent en des langues inconnues. Si des personnes non averties ou des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison ? Voilà ce qu'il faut éviter à tout prix, frères et sœurs. C'est que vous ayez un visiteur le dimanche matin qui vient vous rencontrer et qui ne revienne jamais plus. N'est-ce pas ? Là, ça serait loupé à ce que nous voulons. Nous sommes donc contre la pratique lors des cultes des prières en glossolalie, ce que l'apôtre appelle la langue des anges, afin de ne pas choquer nos éventuels visiteurs. C'est notre choix à Istres. Après, je ne sais pas quel est le vôtre ici. Nous utilisons plutôt des paroles intelligibles, et il en parle dans le début du chapitre, qui vont édifier, en tout cas c'est le but, chaque membre de l'Assemblée. Nous n'avons pas non plus de problème particulier en ce qui concerne la prière de forme prophétique, style celle des anciennes, des prophéties, pardon, ou des prophètes de l'Ancien Testament, puisque nous demandons qu'elle ne soit pas pratiquée sous cette forme-là, afin de vivre également les cultes avec le plus de sérénité possible. Alors, quel est le fond de la pensée de Paul pour la bonne pratique de l'exercice du culte et ce qui nous motive au XXIe siècle? On a envie de dire, et pour nous, comment vivre un bon culte, n'est-ce pas? Eh bien, il faut avoir l'objectif de rendre nos cultes attrayants, vivants, édifiants, compréhensibles. Il ne nous faut pas un patois incompréhensible. Notre culte doit honorer Dieu, contribuer à l'édification du corps de Christ, mais aussi être un témoignage puissant envers nos contemporains qui nous rendent une visite. À Istres, cette pensée est si importante que nous avons même créé une commission spécifique pour la vie du culte. Cette commission a pour but d'aider à vivre notre culte dans les meilleures conditions possibles, que ce soit pour l'enseignement, la louange, le confort des sièges ou de nos yeux, la déco, la qualité de la sonorisation, la projection des images, les éléments lorsque nous préparons la scène, l'accueil, comment nous accueillons nos visiteurs et puis les frères et sœurs, notre moment de prière libre, l'organisation de l'école du dimanche, comme vous avez aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qui se rajoutent dans un culte. Bref, en réalité, chers amis, ce ne sont pas que les personnes qui préparent le culte qui ont cette responsabilité. Je dirais que chaque membre est concerné. Chacun d'entre vous, vous êtes concerné pour vivre un culte vivant. Chacun a sa pierre à poser pour contribuer à vivre un bon culte, non seulement dans le fond, mais aussi dans la forme. Dans la forme. Chaque élément a son importance. Alors parfois, pour ceux qui organisent des cultes de manière pratique, nous sommes un peu découragés parce qu'il y a un problème technique. Il y a du larcen, il y a quelqu'un qui est en retard, quelque chose qui n'a pas marché, une maladresse qui a été faite, une parole maladroite peut-être. C'est vrai que nous voulons nous améliorer chacun dans ce domaine, n'est-ce pas? Mais la perfection n'est pas de ce monde. Il nous faut aussi accepter l'imprévu et l'accidentel et finalement faire de notre mieux pour faire un culte de qualité. Alors nous voici à la conclusion, à moins d'une minute de notre temps. Je suis dans les temps. Rappelez-vous de l'illustration du gâteau du début. J'ai vu que ça vous avait plu, hein? Nous avons tous les ingrédients pour vivre un bon culte, chers amis, chaque dimanche. Eh bien, que faisons-nous de ces ingrédients? Cela nous appartient à chacun d'entre nous. le culte est la vitrine de notre Église. Et d'autant plus en ce moment de pandémie, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas vivre de manière normale. Le culte est important, il est essentiel. Dieu s'est constitué des adorateurs en esprit, de toute nation, de toute condition sociale, qui vivent ensemble, grâce à l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Qui nous rassemble. Alors chaque église a ses coutumes, vous avez les vôtres, à Istres nous en avons peut-être des différentes, nous avons nos traditions, nos manières de vivre et de préparer notre culte. Et moi, cette pensée de Paul ne me perturbe pas par rapport à ce que nous avons lu. Au contraire, elle m'encourage en tant que disciple de Christ à participer le plus possible, le plus régulièrement possible au culte en tant qu'adorateur, mais en tant qu'acteur aussi. En tant qu'acteur, notre participation à chacun se doit d'être la plus active possible. Et si nous recevons l'heure d'un culte, des bénédictions spirituelles, eh bien, à travers nos paroles, de ce que nous avons compris de la parole de Dieu, eh bien, nous devons aussi donner des bénédictions spirituelles à nos frères et sœurs de l'Église, n'est-ce pas? Le Christ s'est donné lui-même pour que nous ayons la vie. Certains d'entre vous, vous l'avez dit ce matin, nous sommes unis derrière le Christ. Alors que par notre attitude, par nos paroles, jusque dans notre habillement même, nous contribuons à édifier l'Église et à attirer nos contemporains vers le Christ, la lumière du monde. Amen, frères et sœurs. Je vais terminer par la prière. Voilà, Seigneur, tu vois ces frères et ces sœurs de Corinthe qui avaient plein de soucis, ils avaient des dons, mais voilà, ils avaient besoin d'être guidés, de progresser, de s'oublier, Seigneur, et de se recentrer sur le Christ, sur la croix, et de mettre un peu leur orgueil de côté. Et Seigneur, tu vois que nous sommes faibles, nous aussi, au XXIe siècle, une prière l'a dit ce matin. Alors Seigneur, permets-nous de contribuer à rendre nos cultes vivants, à rendre nos cultes joyeux, centré sur toi, plein de ta vie, Seigneur. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te prions pour les enfants de cette église, pour qu'ils soient bénis, pour qu'ils te rencontrent chacun personnellement et que leur vie soit bouleversée. Nous avons entendu ce matin que, eh bien, un verset, Seigneur, un seul verset, peut changer beaucoup de choses. Alors, Seigneur, nous sommes réjouis parce que ta parole est vivante et tu es vivant aussi. Et nous voulons au culte eh bien, témoigner le mieux possible et refléter ta gloire parfaite et combien tu es bon. Seigneur, change nos cœurs, continue à nous montrer comment faire, comment t'apporter le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. En ton nom. Amen.